Le journal est présenté par Anne Fauquembert.
Bonsoir. Un commando téléguidé par l'État islamique est déterminé à commettre un attentat. C'est ainsi que François Molins a décrit le trio de femmes interpellées hier soir en Essonne. Le procureur de Paris s'est exprimé en fin d'après-midi sur l'affaire de cette voiture retrouvée à Paris dimanche dernier avec des bonbonnes de gaz. Sarah Petitbon va nous résumer ses déclarations. 11 candidats sont désormais enregistrés pour concourir à la primaire de la droite, mais a priori seuls 8 pourront participer. On fera les comptes avec Stéphane Robert dans un instant. La fête de l'humanité ce week-end, un espace pour créer les conditions de l'unité à la gauche du PS avant la présidentielle. Nous en parlerons avec notre invité, le directeur de l'Humanité, Patrick Leyaric. Enfin, au Gabon, l'opposant Jean Ping redoute une longue période d'instabilité en cas de non-recomptage des voix de l'élection présidentielle du mois dernier. Il était en meeting cet après-midi à Libreville. Le reportage de Sébastien Nemeth, le correspondant de RFI pour France Culture, en fin de journal. Le procureur de la République de Paris, François Molins, s'est donc exprimé en fin d'après-midi. Il a fait le point sur l'enquête après la découverte, le week-end dernier, près de la cathédrale Notre-Dame de Paris, d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz. Plusieurs personnes toujours en garde à vue ce soir, dont les 3 femmes arrêtées hier soir en Essonne. Sarah Petitbon, vous nous résumez la conférence de presse de François Molins.
5 bonbonnes de gaz, des bouteilles contenant des traces de gasoil, une couverture sur laquelle a été retrouvée des traces d'hydrocarbures ainsi qu'une cigarette à peine consumée. Voilà donc ce qui a été découvert dans la Peugeot 607 abandonnée dimanche à proximité de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un véhicule qui aurait pu exploser si l'incendie avait pris, et cela malgré l'absence de dispositif de mise à feu, a bien confirmé François Molins. La voiture a d'abord permis d'identifier 2 femmes de 19 et 29 ans, Inès et Ornella. La plus jeune, fille du propriétaire du véhicule, était fichée S après une tentative de départ pour la Syrie. La seconde, dont le profil n'a pas été dévoilé, a été arrêtée mardi avec son compagnon sur l'autoroute A7 près d'Orange. Les enquêteurs en alerte maximale depuis le week-end dernier sont ensuite remontés jusqu'à la petite ville de Bussy-Saint-Antoine dans l'Essonne, où ils ont interpellé hier dans la soirée Inès en compagnie de 2 autres femmes, Amel, 39 ans, et Sarah, 23 ans. Cette dernière était bien connue des services de renseignement puisqu'elle a été tour à tour la promise, selon les mots du procureur, de Larossi Abala, l'auteur de la tuerie de Magnanville, puis d'Adèle Kermiche, l'un des attaquants de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Elle était depuis en couple avec un homme connu, lui aussi pour islamisme radical, et arrêté à son tour hier soir dans les Yvelines. Enfin, une dernière femme a été interpellée aujourd'hui. Il s'agit d'une mineure de 15 ans, la fille d'Amel, suspectée elle aussi d'être impliquée dans le projet d'attentat. L'action de ces femme a bien été téléguidée depuis la Syrie, a confirmé François Molins, qui a annoncé avoir ouvert 2 enquêtes, l'une sur la voiture abandonnée et l'autre concernant le projet d'attentat du commando.
Merci Sarah Petitbon pour vos précisions. 11 candidatures ont été enregistrées par la Haute Autorité pour l'organisation de la primaire à droite ce soir. Les concurrents avaient jusqu'à 18h pour se faire connaître. 3 d'entre eux sont des candidats à la candidature qui n'ont pas réussi à réunir les parrainages nécessaires et qui se présentent désormais au nom d'un autre parti politique. En réalité, ils sont seulement 8 à pouvoir prétendre participer à cette élection. Les précisions de Stéphane Robert.
Pour le moment, ils sont 4, dont les candidatures ont d'ores et déjà été validées par la haute autorité qui chapeaute l'organisation de cette primaire. Celle de Bruno Le Maire, qui avait déposé ses parrainages en mai dernier, tout a été vérifié et validé depuis de nombreuses semaines. Même chose pour François Fillon et Alain Juppé, eux ont officiellement déposé la liste de leur soutien au mois de juillet. Et ils ont très largement dépassé les seuils nécessaires de 2500 adhérents, 250 élus et 20 parlementaires. Nicolas Sarkozy, lui, a attendu le tout dernier moment pour se manifester, c'est-à-dire aujourd'hui. Mais c'était une manière de fanfaronner et de jouer au concours de celui qui en a le plus. Résultat, il a remporté ce concours auquel il était le seul à participer avec 103 parlementaires et 20 000 militants pour le parrainer. Pour Jean-François Copé, Nathalie Kosciusko-Morizet et Hervé Mariton, ça n'est pas encore complètement fait. Ils ont tout juste atteint les quotas nécessaires et la Haute Autorité va prendre une quinzaine de jours pour vérifier la validité de leur parrainage, que les militants qui les ont parrainés, par exemple, sont bien à jour de leurs cotisations. Enfin, le 8e et dernier candidat s'appelle Jean-Frédéric Poisson. Lui n'a pas eu besoin de parrainage, sa candidature est validée depuis déjà plusieurs mois. Il s'est présenté au nom du Parti chrétien-démocrate et il est la caution qui permet à cette primaire de s'intituler « primaire de la droite et du centre » et pas seulement « primaire de Les Républicains ». puisque les centristes de l'UDI ont décidé de ne pas y participer.
Des précisions signées Stéphane Robert. De la droite à la gauche, l'invité du journal de 22h, c'est Patrick Le Yarrick, directeur du journal L'Humanité et vice-président du groupe de la gauche unitaire au Parlement européen. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
600 000 personnes sont attendues à la fête de l'humanité ce week-end, 86e édition, dans un contexte particulier cette année, au lendemain des attentats qui ont marqué la France et à la veille d'une élection présidentielle. Quel sens donnez-vous à cette fête de l'UMA cette année en particulier, monsieur Le Yarrick?
C'est à la fois la fête de la rencontre, la fête de la fraternité, la fête de la convivialité et la fête aussi de la raison et de la réflexion, à la fois contre les crimes de masse qui se sont passés cet été et aussi pour conjurer une odeur assez nauséabonde qui se répand sur l'Europe, c'est-à-dire la montée des populismes xénophobes d'extrême droite.
Alors sur l'Europe, justement, je saisis la balle au bon. Alexis Tsipras a organisé aujourd'hui un sommet à Athènes pour relancer l'Europe sociale. C'est un bon signal?
Oui, il a raison. Toutes les initiatives qui peuvent être prises après le référendum britannique qui vise à refonder la construction européenne sur de nouvelles bases pour porter, comme il le dit, la question sociale, pour une conférence visant à annuler la dette ou pour retarder le paiement de ces dettes, pour se donner des moyens, notamment en utilisant l'argent que fabrique la Banque Centrale Européenne chaque mois au service du développement humain et du progrès social, sont des initiatives utiles. La France devrait prendre également de telles initiatives.
Alors revenons à la fête de l'UMA. Pierre Laurent va une nouvelle fois lancer un appel à une candidature commune à gauche du PS pour la présidentielle. Mais comment faire, monsieur Le Yarrick? Jean-Luc Mélenchon est déjà parti avec un agenda bien maîtrisé, un livre, Le choix de l'insoumission, sorti cette semaine. N'est-il pas déjà trop tard?
Il n'est pas trop tard. On voit qu'il y a beaucoup de candidatures. Ce n'est pas la bonne méthode au moment où il y a le risque d'avoir au second tour de l'élection présidentielle une droite extrémisée et l'extrême droite comme duel. Par conséquent, il faut créer toutes les conditions pour empêcher cela, et ceux qui peuvent empêcher cela, c'est le peuple de gauche. Il faut qu'il parle, il faut qu'il donne son opinion pour ensemble écrire un projet commun, un pacte commun, et pour choisir ensemble également un candidat de la gauche alternative. Mais Jean-Luc Mélenchon peut-être ce candidat de rassemblement, mais il faut se parler, il faut créer les conditions pour dégager les moyens de cette candidature commune.
Alors cette année a été marquée par la mobilisation contre la loi travail, et justement il va en être question demain à la fête de l'UMA. Vous organisez un débat sur la rentrée sociale. Cette fête de l'humanité, elle va permettre de vous mettre en ordre de bataille pour poursuivre cette lutte, et comment, vu que le texte est voté?
Oui, le texte est voté. Il serait souhaitable que certains décrets ne soient pas publiés car il y a des dispositions extrêmement négatives dans la loi. Et surtout, je crois qu'il n'est pas trop tard pour reprendre le chantier de ce qu'avait avancé la CGT il y a de cela quelques années et qu'avait repris le candidat Hollande durant la campagne des élections présidentielles, qui visait à inventer une sécurité sociale de ce siècle, c'est-à-dire une sécurité du travail combinée avec les périodes de formation dans le cadre des mutations qui se passent aujourd'hui, c'est-à-dire les nécessités de la révolution écologique, les nécessités de la révolution numérique qui peuvent être créateurs d'emplois stables, d'emplois qualifiés.
Patrick Le Yarrick, votre journal est en grave difficulté financière, on peut même parler de survie pour ce titre historique de la presse française. Comment faire avec peu de moyens pour conquérir un nouveau lectorat?
Nous nous battons, nous proposons la lecture de nos journaux, l'Humanité Dimanche et l'Humanité, à celles et ceux qui précisément sont aujourd'hui angoissés, celles et ceux qui se doutent, celles qui recherchent des réponses. Nous nous développons également aujourd'hui sur le numérique et nous lançons durant cette fête de l'humanité une initiative extrêmement originale qui est la création d'un réseau social unique dans la presse, qui est un réseau de mobilisation sociale, des mobilisations culturelles et des mobilisations solidaires, qui va s'appeler la cerise. Donc, nous prenons des initiatives nouvelles de déploiement, de développement car nous considérons que nous ne le devons pas qu'à nous-mêmes, nous le devons à la République, nous le devons au pluralisme des idées et au bout du compte à la démocratie.
Dernière question par rapport à votre journal, ne souffre-t-il pas aussi de l'absence d'un leader naturel à la gauche du PS, ce journal, pour le faire aussi ?
Cette question est possible, mais nous sommes toutes et toutes un peu confrontés avec la crise de la démocratie à une certaine crise des médias. Et donc, moi, je suis partisan que nous revisitions ça tous ensemble de telle sorte qu'on fasse vivre le pluralisme de la presse, la confrontation d'idées qui est autre chose que ce qu'on connaît de temps en temps, c'est-à-dire simplement le fait divers, l'émotionnel ou la pipolisation. Je crois que nos concitoyennes et concitoyens cherchent des idées, cherchent des lieux de débat et voire de confrontation sérieuse. Votre radio le fait, mais ceci devrait se généraliser dans tout notre écosystème de la presse et des médias.
Merci Patrick Lejarrig, directeur de l'Humanité, d'avoir été l'invité du journal de 22h de France Culture. La fête de l'Humanité se tient jusqu'à dimanche soir au parc de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Pour le troisième mois consécutif, la production industrielle en France a diminué, atteignant son niveau le plus bas depuis un an, selon l'INSEE. Et c'est dans ce contexte que s'est tenue aujourd'hui les deuxièmes assises du produire en France à Reims. Rendez-vous organisé par le député UDI Yves Jégot en tandem avec Arnaud Montebourg. Une quinzaine de candidats à la présidentielle sont venus exposer leurs arguments contre la désindustrialisation devant un parterre de 500 chefs d'entreprise. Le reportage de Jean-Marc Chardon.
Ils ont beau se poser en défenseurs du Made in France, les responsables politiques ont surtout été attendus sur leur capacité à faire des propositions concrètes. Le Made in France a peut-être la cote, mais il est souvent dévoyé dans la réalité. Combien d'entreprises, notamment dans la distribution, s'en réclament sans vraiment le pratiquer ? C'est l'observation de Guillaume Nanot, éditeur de jeux de société. Il prône une concurrence loyale.
Nous, ce qu'on demande aux hommes politiques, c'est de mettre en place les conditions d'une concurrence loyale sur le territoire. On ne demande aucun subside, on ne demande aucune aide. Nous, ce que l'on veut, c'est être capable d'être en milieu concurrentiel dans des conditions qui soient loyales. Lorsque j'inscris Made in France sur mon produit, il faut que mon produit soit fabriqué en France. Sinon, il faut que je sois pénalisé, il faut qu'on m'interdise de le faire parce que je suis en concurrence déloyale avec ceux qui font l'effort de produire réellement en France.
Autre contradiction, le Made in France est plébiscité par les Français. Il a leur préférence en parole, beaucoup moins en acte. C'est le regret exprimé par Guillaume Quéroux, président du Club des entrepreneurs.
Acheter et produire en France, ce n'est pas juste du marketing. C'est juste vital pour notre économie. Et que d'un autre côté, 9 Français sur 10 sont pour acheter en France, mais qu'avec la sortie du iPhone 7, avec toutes ces nouvelles technologies, on se rue sur des produits qui détruisent de l'emploi en France. Et c'est ça le paradoxe finalement français dont nous sommes les premières victimes.
Et c'est ainsi qu'on estime à quelque 2 millions le nombre d'emplois perdus en moins de 3 décennies.
Au Gabon, Jean Ping redoute une longue période d'instabilité en cas de non-recomptage des voix de l'élection présidentielle contestée du 27 août. Le candidat de l'opposition, qui revendique toujours la victoire, a saisi hier la Cour constitutionnelle. Et cet après-midi, il a battu le rappel de ses partisans à l'occasion d'un meeting à Libreville. Le reportage de Sébastien Nemeth de RFI pour France Culture.
Le meeting de Jean Ping a commencé dans une ambiance plutôt tendue. Accusé de partialité, un journaliste de Gabon Télévision a été agressé et exfiltré par la sécurité. Puis l'opposant est arrivé, faisant lever de la victoire sous les cris de ses partisans. Accusant la Cour constitutionnelle d'être proche du pouvoir, Jean Ping a demandé aux juges de mettre leurs intérêts de côté et de rester neutre.
J'agis en légaliste et je mets au défi la gardienne des lois de dire enfin le droit en acceptant ce décompte. La Cour constitutionnelle a maintenant le choix entre la stabilité ou l'instabilité du Gabon. C'est une très lourde responsabilité.
Je suis républicain et démocrate, a dit l'opposant, tout en prédisant une nouvelle vague de contestation si la Cour valide la victoire d'Ali Bongo.
Il ne fait aucun doute qu'en cas de non-respect de la réalité du vote des Gabonais par la Cour constitutionnelle, le peuple qui n'aurait dans ce cas plus rien à perdre, prendra son destin en main.
Beaucoup prévoient des violences lors du verdict des juges. Jinping lui promet de se tenir aux côtés du peuple et d'aller jusqu'au bout pour que sa victoire soit reconnue.
Et Alik Bongo, le président élu, a réagi ce soir. Il déclare qu'il n'a pas exercé ni déclenché de violence après l'élection présidentielle et renvoie la balle à Jinping qui, selon lui, crée un climat propice au pillage. À Genève, Américains et Russes tentent toujours de dépasser leurs divergences. Les pourparlers de paix sur la Syrie ont repris avec pour but de parvenir au minimum à un cessez-le-feu. Enfin, le Conseil de sécurité est réuni en ce moment même après le cinquième essai nucléaire nord-coréen de la nuit dernière. Barack Obama a appelé à de nouvelles sanctions internationales juste avant l'ouverture des discussions à 21h, heure de Paris. Le président américain qui a dénoncé une menace sur la paix internationale. La météo de votre samedi sera ensoleillée, sauf sur les pointes normandes et bretonnes. Les températures restent douces, 20 à Lille, 23 à Bordeaux, 24 à Strasbourg et 27 à Marseille.